Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Corinne, bonjour tout le monde.
Asialogie se lance aujourd'hui dans l'histoire de la cosmétique, chers auditrices et auditeurs. D'accord. Et cela en lien avec une merveilleuse exposition qui a lieu en ce moment au Musée Guimet, okay, à Paris. Une des expos programmées dans le cadre des 140 ans de relations diplomatiques entre la France et la Corée.
Ok.
Et pour finir en douceur, Didier, on était déjà dans la douceur avec les cosmétiques.
C'est
ça. Bah, tu vas nous parler du véritable culte qu'ont les Asiatiques, oui, les Japonais particulièrement, oui, pour les chats.
D'accord. Bon, avant de commencer, moi, j'ai une petite surprise.
Oui.
Parce que Corinne est très forte pour les prononciations et moi, pas du tout, mais moi, je suis plus en maths. Et là, je sais que 28 plus 42 plus 40, en fait, ça fait 100. Et là, c'est la centième émission d'Asialogie ce soir. Et oui, c'est la centième.
Bon, bah, chers auditeurs, vous écoutez la centième émission d'Asialogie, c'est un peu émouvant pour
voilà,
nous.
Ça fait plaisir.
Du coup, merci.
Exactement.
Merci. Je ne savais pas
alors,
que c'était la centième.
Pas qui est passé depuis
c'est
un petit moment, mais il y a même du chocolat qui t'attendra pour fêter ça.
Oh,
allez,
wow,
c'est parti.
Super.
Alors, direction, il ne faut pas que ça pleure sur le maquillage, c'est pas
non,
bon. Hein. Donc, mais avant de nous plonger directement dans l'histoire des cosmétiques en Asie, fais-nous un petit résumé en fait, des pratiques en Europe, déjà.
Alors, oui, j'ai encore tout ému, Didier,
ah,
mais
écoute,
c'est vrai,
oui, je savais que
la centième, oui, c'est vrai, ça se fait.
C'est quelque chose, quoi. Hein.
Bah, la fêter avec les cosmétiques, c'est pas mal, je trouve.
Allons-y. Alors,
l'histoire des cosmétiques en Europe remonte à l'Antiquité, comme en Asie d'ailleurs.
D'accord.
Elle s'est développée au fil des siècles, selon les traditions médicales, les modes bien sûr, et les innovations scientifiques, on s'en doute.
Mmh.
Alors la France a toujours joué un rôle important dans cette évolution, jusqu'à devenir l'un des leaders de l'industrie cosmétique mondiale. C'est quand même une de nos réussites. Et les premières pratiques remontent en Europe à l'Antiquité avec les Grecs qui voyaient la beauté comme une harmonie entre le corps et l'esprit.
D'accord.
Et l'huile d'olive servait à la fois de soin de la peau et de base pour les parfums.
Okay.
Et les Grecs utilisaient aussi des poudres pour améliorer le teint et des pigments naturels pour colorer les lèvres et les joues, déjà. Mmh. Et les Romains, alors quand je dis les Grecs, c'était les hommes comme les femmes. Hein.
Okay.
Et les Romains faisaient partie intégrante. Les Romains ont bien sûr ensuite intégré ces pratiques-là dans leur vie quotidienne. Il y avait un léger décalage. Hein, c'était d'abord les Grecs et ensuite les Romains.
Okay.
Et les bains publics faisaient partie intégrante de leur culture et étaient associés à l'utilisation de produits de beauté.
Mmh.
Et certaines substances utilisées à cette époque étaient dangereuses, il faut le savoir, comme la céruse, une poudre blanche qui contenait du plomb qui était utilisée pour éclaircir la peau.
C'est les dégâts que ça a fait à cette fois.
Voilà, et qui pouvait bien sûr provoquer des intoxications graves.
Bon alors justement, comment la cosmétique a évolué par la suite alors ?
Alors après la chute de l'Empire romain, donc on est toujours en Europe, au Moyen-Âge, les pratiques cosmétiques vont se perdre à cause de l'Église. C'est pas la première fois que l'Église nous fait perdre des choses comme
c'est clair,
qui va les faire disparaître.
Oui.
L'Église considérait les cosmétiques comme une forme de vanité.
D'accord.
Voilà. Et les soins de beauté n'avaient quand même pas complètement disparu parce que les femmes ont continué d'utiliser des préparations naturelles pour prendre soin de leur peau et de leurs cheveux.
Okay.
Et on a même retrouvé des recettes dans des traités médicaux ou dans des livres de recettes domestiques, c'est-à-dire qu'elles consignaient...
Oui, j'imagine bien.
Voilà.
Le grimoire.
C'est un peu ça. Okay. Et les ingrédients utilisés étaient des plantes médicinales, bien sûr, des huiles végétales, du miel ou encore de l'eau de rose, dont on sert toujours, bien sûr.
C'est vrai.
Et ces produits servaient principalement à nettoyer, hydrater et à parfumer le corps.
Des fois, c'était mieux de le parfumer, d'ailleurs.
Oui, parce qu'on n'était pas les champions de la propreté, c'est vrai.
Voilà.
Mais bon, ça, c'est une autre histoire.
Oui,
c'est parce qu'ils avaient peur d'attraper des maladies.
D'accord.
Alors, la Renaissance, parce que l'eau était quand même vectrice de maladies.
C'est ça.
Alors, la Renaissance marquera un renouveau et rendra le maquillage populaire dans les milieux aristocratiques.
D'accord.
Avec notamment Catherine de Médicis. Avec elle, la parfumerie française va se développer justement à la cour et dans les villes, près des bourgeois bien sûr, mais certains produits utilisés encore pour blanchir la peau restaient toxiques, comme le plomb et l'arsenic. Alors, au XVIIe siècle, les cosmétiques deviendront un élément essentiel de la mode en Europe, particulièrement en France, avec Louis XIV, Marie-Antoinette, qui feront de Versailles le centre de la mode européenne. Alors c'est là la poudre de riz, les pigments végétaux, la cire d'abeille, les huiles parfumées qui étaient la base des produits de maquillage. Mais certaines préparations contenaient encore du plomb et du mercure.
On ne se rendait pas compte. Oui,
ça, c'était nouveau, le mercure. Et le 19e siècle a été l'époque de l'industrialisation et des progrès scientifiques, ce qui a permis d'avoir des formules plus sûres et de produire aussi à plus grande échelle. Et puis, la suite, on la connaît mieux, car depuis, la France s'est imposée dans le monde entier grâce à son savoir-faire, et à parce qu'on avait l'expérience, et à la création de grandes marques qui sont rentrées aujourd'hui en concurrence avec le marché asiatique.
D'accord. Oui. Alors, en Asie, comment cette industrie s'est développée maintenant, si on retourne à notre cœur de l'émission, quelle a été son histoire, s'il te plaît ?
Alors, les pratiques cosmétiques en Chine, au Japon et en Corée remontent à plusieurs millénaires, comme en Europe, et ont une place importante dans leur histoire culturelle. Dans ces sociétés, les cosmétiques ne servaient pas qu'à embellir l'apparence. Ça, c'est important de le souligner. Ils servaient aussi à exprimer un statut social, des valeurs et même des croyances.
Ah oui.
Alors, dans les sociétés traditionnelles asiatiques, et encore aujourd'hui, l'idéal de beauté était associé à une peau claire. Chez nous, c'était aussi un peu le cas.
Oui, c'est vrai.
Une peau lisse et lumineuse, symbole de pureté, de raffinement et de noblesse. On y utilisait donc de nombreuses substances provenant de plantes, de minéraux ou de produits animaux inspirés de la médecine traditionnelle et censés améliorer l'apparence et la santé de la peau.
D'accord. Alors Corinne, on va continuer à bouger. Cas de particularité, en fait, l'histoire des cosmétiques en Chine maintenant.
Alors beaucoup de points communs, communs avec le Japon, avec la Chine et la Corée. Ouais. Parce que par exemple, le teint pâle était valorisé dans les trois pays. Alors les femmes appliquaient des poudres pour blanchir la peau et utilisaient différents pigments pour colorer les lèvres et les joues. Alors c'était pas la même chose. Ils utilisaient pas des produits pour se blanchir la peau en profondeur. Ils se maquillaient ils n'utilisaient pas le mercure ni l'arsenic.
Je comprends bien.
Et très tôt, et bien avant l'Europe, ils utilisaient de l'eau et de la poudre de riz, des perles broyées, du cartame, du safran pour produire des pigments rouges, de la cire d'abeille pour fabriquer des baumes et des rouges à lèvres.
D'accord.
Voilà, ils s'hydrataient aussi le corps avec des huiles végétales comme l'huile de sésame, en y ajoutant des plantes médicinales qu'on connaît bien, comme le ginseng, la racine d'angélique ou de lotus, et des produits de médecine traditionnelle chinoise.
D'accord, ça paraît plus sain quand même.
Ça paraît tout de suite plus sain, ça fait tout de suite quand même un peu plus, plus confiance. Mais en Europe, certains cosmétiques contenaient... certains cosmétiques contenaient quand même de la cerise et du cinnabre. C'était plus sain, mais quand même, c'était le cinnabre, et parce que c'était un pigment rouge qui donnait une jolie couleur. Mais c'était quand même globalement plus sain.
D'accord.
Alors on sait que ça donnait aussi des troubles neuro et des intoxications graves à long terme.
J'imagine bien, le mercure, c'est pas bon.
Voilà, tout à fait. La transition de la Chine vers la cosmétique moderne s'est faite à partir des pratiques et des techniques occidentales. Et les Chinois consomment aujourd'hui beaucoup de produits français et coréens.
Oui, ça, je ne suis pas surpris.
Ils en ont un peu de fabrication, mais ils ne sont pas leaders sur le marché.
D'accord, ok. Bon.
On fait une petite pause musicale, Didier. Je n'ai pas résisté parce que...
T'es encore dans l'actualité.
Je suis encore dans l'actualité et on va écouter BTS. C'est un de leurs titres de leur dernier bel album, Arirang.
Puisque la dernière fois, on n'avait pas pu le faire, on se rattrape aujourd'hui.
Voilà, et c'est Like Animals. You can't.
Alors, vous êtes toujours avec Asialogie sur Radio Alpa 107.3. Alors, bon, on se sera rattrapé, mais c'est court quand même, hein, j'en ai bien conscience. Mais c'est Asialogie et nous, on doit repartir maintenant directement vers le Japon pour à nouveau avoir quelles ont été leurs premières pratiques en cosmétique.
Alors, les pratiques japonaises ont été influencées par la culture chinoise, hein, et pour tous les produits utilisés.
Okay.
Mais le style de maquillage était très différent.
Ouais.
Et je dirais que ce style s'est imposé jusqu'au siècle dernier.
Ah, tout de même.
Oui, le visage devait être extrêmement blanc, les lèvres très rouges et les sourcils redessinés complètement.
D'accord.
Mais le plus surprenant, c'était la pratique, on en avait déjà un petit peu parlé, du ohaguro, qui consistait à se noircir les dents.
Ah oui.
Alors, cette coutume est apparue dès la période Heian au 9e siècle et elle est restée fréquente jusqu'au 19e quand même.
Ah oui, tout de même.
Alors, ça concernait surtout les femmes, hein, et c'était considéré chez les femmes justement comme un symbole de la beauté, d'élégance, de statut social élevé, de marquage du passage à l'âge adulte.
Ah, rien que ça. Okay.
Et progressivement, la pratique s'est diffusée dans d'autres groupes sociaux, notamment chez les samouraïs, mais c'était surtout les femmes qui avaient les dents noires.
D'accord.
Et la teinture utilisée était obtenue en mélangeant de la limaille de fer, du vinaigre, du thé riche en tanins, et la réaction chimique produisait un liquide noir qui se fixait sur les dents.
Sympathique.
Et oui, il paraît que ça sentait pas bon en plus.
C'est ce que j'allais
dire. Et la solution était appliquée 2 à 3 fois par semaine à l'aide d'un pinceau.
Bien.
Pour maintenir la couleur noire.
Ah oui, tant qu'à faire.
Alors cette pratique pouvait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, avoir un effet protecteur sur les dents.
Ah oui.
Et ça pouvait protéger, limiter les caries, protéger l'émail.
D'accord, remarque qu'on ne les voyait pas, donc c'était pas mal.
C'est ça aussi. C'est aussi à partir du 19e siècle que le Japon va moderniser son industrie cosmétique, parce qu'elle est bien aussi, l'industrie cosmétique japonaise aujourd'hui. Et ils mettent l'accent sur la sécurité des formules et l'utilisation d'ingrédients naturels comme le thé vert, les algues ou les extraits de riz.
D'accord.
Ah, bon, donc, ils sont fiables. Ils sont fiables, les Japonais, aujourd'hui.
Je ne suis pas surpris. On va continuer notre petit tour. Et puis, il nous reste à explorer, en fait, la cosmétique coréenne, qui est donc, comme tu l'as dit, mise à l'honneur au musée Kimé en ce moment.
Oui, alors ça remonte au 3e siècle, à l'époque des Trois Royaumes, les cosmétiques en Corée.
Okay.
Et les soins de la peau étaient considérés comme un moyen de maintenir son corps en bonne santé.
D'accord.
Et les cosmétiques coréens étaient fabriqués à partir d'ingrédients naturels, faciles à trouver.
Mm-hmm.
La poudre de riz, le haricot mongo moulu, utilisé comme nettoyant, l'eau de riz fermentée pour tonifier la peau.
D'accord.
Le miel pour l'hydrater, les huiles végétales encore avec des plantes médicinales.
Ouais.
Et là, il n'y avait pas de mercure, ni de métaux lourds en Corée. Mais c'était un peu plus tard. Enfin,
bien sûr.
Alors, ils utilisaient aussi, bien sûr, le ginseng, la racine de réglisse, de lotus, le thé vert, l'huile de camélia. Tous réputés pour leurs propriétés anti-âge, hydratantes et apaisantes.
Mmh.
Et c'est des ingrédients qu'on retrouve dans les produits cosmétiques coréens modernes.
Oui, d'accord.
Alors, les produits de maquillage étaient aussi d'origine naturelle. Alors aujourd'hui, la Corée du Sud est l'un des leaders mondiaux de l'innovation cosmétique. Et les ingrédients traditionnels liés à la technologie en font des produits de très grande qualité. Et parmi les nouveaux ingrédients populaires, il y a la bave d'escargot, très célèbre, la Centella asiatica, qui est une plante, le propolis, et l'acide hyaluronique.
Ouais, ça, on entend beaucoup parler, oui.
Et il y a beaucoup de plus maintenant de magasins qui sont dédiés à la K-beauty en France, à Paris surtout.
Oui,
et on commence à en trouver en parfumerie au Mans.
Oui, ça le vend en poupe quand même, hein, on peut dire
tout
ça.
Tout à fait, tout à fait.
Du coup, Corinne, que peut-on voir dans l'exposition donc K-beauty, la beauté coréenne, histoire d'un phénomène actuellement au musée Guimet.
Oui, c'est ça le titre de l'exposition,
voilà.
Didier. Très belle expo vraiment à voir du 18 mars, ça vient de commencer. Hein.
Oui, c'est ça.
Aussi, enfin ça fait déjà presque un mois, mais c'est jusqu'au 6 juillet 2026.
C'est ça, ça laisse encore un peu de temps.
C'est une expo qui met en lumière l'histoire, la culture et l'esthétique de la beauté coréenne, des traditions anciennes jusqu'au phénomène mondial contemporain, et elle s'inscrit dans la programmation l'occasion de la célébration du 140e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Corée, dont on parle beaucoup. Et l'exposition commence par la fin du 18e, ça remonte pas si haut, moi je suis remontée plus haut quand même, dominée par le néo-confucianisme, une période où la beauté était étroitement liée à l'harmonie intérieure, un peu comme chez les Grecs. Alors on y voit comment un idéal esthétique se construit au travers de nombreuses peintures, ça c'est très intéressant. Et on y découvre aussi tous les objets et pratiques liés aux soins du corps et à l'esthétique. Il y a des miroirs, des poudriers, des peignes, des coffrets de maquillage, et puis aussi l'influence d'un livre qui s'appelle Donggi Bogam, qui est un traité médical très célèbre, qui a été compilé en 1613, qui explique le lien entre la santé, la cosmétique et les soins du corps. Donc c'était pris très au sérieux, la cosmétique en Corée. Et la dernière partie de l'exposition, donc on le voit à ce livre, un très vieux livre, et la dernière partie de l'exposition se concentre sur l'essor spectaculaire de la K-beauty depuis les années 90, qui sont liés à la fameuse vague Hallyu, qui en a fait un autre outil de soft power, au même titre que la K-pop, les K-dramas, et puis bien sûr la cuisine. Alors on peut y admirer aussi des hanbok, les tenues traditionnelles, magnifiques, et notamment les créations d'un couturier qui s'appelle Lee Yong-hee. Inspiré des tenues historiques, donc des copies, mais faites, je dirais, traditionnellement. Donc, très, très, très beau. Et aussi des photographies et des publicités qui montrent l'évolution des standards de beauté au XXe siècle. Alors, je dirais que cette expo nous invite à réfléchir sur des normes esthétiques contemporaines et leur impact social et nous explique comment un idéal esthétique a été façonné, transformé et exporté mondialement. Et ça illustre aussi la manière dont l'art, la culture, la cosmétique s'entrelacent dans la construction des identités sociales et culturelles. Je recommande vraiment cette exposition. Et le musée Guimet, bien sûr.
Je n'ai pas vu l'expo, mais le musée Guimet, j'adore aussi.
Voilà, Didier, moi je propose... c'est toi qui nous proposes. Je propose d'écouter ta proposition de pause musicale. C'est Le Royaume des Chats, c'est la bande original du film qui s'appelle Le Royaume des Chats. C'est une des chansons du film. Très joli film.
Et c'est plutôt adapté à la suite.
Film dessin animé, animé japonais. C'était Le Royaume des Chats dans Asialogie. Et je dirais Asialogie, c'est Le Royaume des Chats aujourd'hui, Didier. Alors, les chats nous accompagnent depuis des millénaires et sont souvent vus comme des créatures sacrées en Asie. Explique-nous pourquoi, Didier.
Oui, alors, avant de parler de l'histoire des chats en Asie, je vais faire un peu comme toi, je vais résumer l'histoire des chats en Europe et en France, où elle est paradoxale, car le chat a eu des images différentes selon les époques et les superstitions. Il pouvait être vénéré, craint et persécuté. Les chats domestiques européens sont venus du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, grâce aux échanges commerciaux et aux conquêtes militaires. Alors, leur domestication a commencé lorsque les premières sociétés agricoles sont apparues. Les réserves de grains attiraient les rongeurs, bien sûr, et les chats, encore sauvages, venaient naturellement les chasser. C'était des proies faciles. Puis, peu à peu, il y a une relation de proximité qui s'est créée.
Oui, avec les humains.
Bien sûr.
Et à partir de quel moment l'image s'est dégradée en Europe, Didier ?
Après la chute de Rome, les chats sont restés présents dans les sociétés médiévales, vivant dans les granges, les monastères et les maisons, mais dans une Europe très marquée par la religion chrétienne.
Ah bah c'est comme voilà, pour le maquillage.
Exactement, il y a un lien. Leur image changera profondément et ils seront associés surtout, bah, les chats noirs, hein, à la sorcellerie et au diable. Et ça, jusqu'au XVIIe siècle.
Oui, ça a duré quand même. Hein.
Oui, oui, les chats ont souffert. En France, il faut savoir qu'à la fête de la Saint-Jean, on jetait parfois des chats dans les bûchers. Hein. Donc,
pas sympa quand même.
Non, pas trop, non, pas trop. Certains historiens pensent même que la persécution des chats aurait favorisé la prolifération des rats et contribuant à la diffusion de la peste noire. Ça, c'est assez étonnant, j'ai découvert ça.
Oui, c'est une rupture de l'équilibre.
Voilà,
hein.
C'est ça. C'est à partir de la Renaissance que le sort des chats va s'améliorer sous l'influence, entre autres, de Louis XV, le revoilà, qui aurait entretenu plusieurs chats à la cour.
Oui, c'est vrai, le revoilà.
Et du cardinal de Richelieu, qui possédait une véritable ménagerie féline. Le chat entrera ensuite dans la littérature avec le chaboté de Charles Perrault, qui ne connaît pas le chaboté. Des écrivains comme Victor Hugo évoquaient les chats dans leurs œuvres, et Baudelaire leur a même consacré des poèmes où ils sont décrits comme des créatures énigmatique et magique.
Alors parle-nous des chats en Asie maintenant, Didier. Alors ils ont eu un meilleur sort.
Alors oui, ils étaient beaucoup mieux considérés, mais ils sont arrivés là-bas beaucoup plus tard. Il y a 2000 ans seulement, rapidement, ils ont été vus comme bien plus que de simples animaux domestiques. On les voyait comme des protecteurs des récoltes, symboles de prospérité, comme des créatures spirituelles et mystérieuse. Alors, depuis les temps anciens, les chats ont acquis un statut particulier de gardien des réserves et des maisons.
Alors, je suppose que les chats étaient aussi vus comme des symboles, hein, parce que vu comment ils sont tellement représentés...
C'est ça. Oui, dans la pensée chinoise traditionnelle, le chat s'inscrivait dans un univers symbolique et dans des anciennes légendes. Les dieux auraient donné au chat la responsabilité de surveiller le monde et de maintenir l'ordre du temps. Mais, comme il préférait dormir au soleil plutôt que d'assumer cette tâche, les dieux auraient alors transféré cette responsabilité aux humains, laissant au chat leur caractère contemplatif et indépendant.
C'est poétique quand
c'est
même.
Ça. C'est toujours mignon. En Chine, on associe le chat à la longévité et au bonheur. Ce que l'on retrouve dans les peintures traditionnelles, où les chats sont peints accompagnés de pivoines ou de papillons.
Oui, ils sont très très joliment représentés en Chine. Alors, et au Japon ? Ils sont aussi très bien représentés là récemment. Moi, je trouve que c'est vraiment, j'aime bien ce mot-là, la mignonitude
c'est
absolue.
Ça. C'est so cute, comme tu dis.
Oui, so cute.
Elle a été introduite.
Kawaii.
Kawaii. Oui, c'est kawaii. Ça. Oui, tout à fait, tu as raison. C'est ça la référence. Elle a été introduite probablement vers le 6e siècle, importée de Chine et de Corée, avec des textes bouddhiques qu'il protégeait en fait des rongeurs. Là.
Oui,
cette fonction de gardien des textes sacrés, t'imagines, leur a donné une aura spirituelle dès leur arrivée.
Ouais. Pas du tout la même image qu'en Europe.
Les chats sont devenus très populaires. On retrouve les chats dans de nombreuses légendes japonaises. Et l'une des plus célèbres, c'est le Maneki Neko, littéralement le chat qui invite. Ça, tout le monde connaît. Hein. Cette figurine qui représente le chat levant une patte est aujourd'hui omniprésente dans tous les commerces, restaurants et maisons en Asie pour attirer la chance et les clients et la prospérité, et en France aussi.
Oui, c'est vrai, maintenant il y en a partout.
C'est vrai.
Et on en trouve partout, même dans les maisons maintenant, françaises.
Oui, c'est très développé.
Pourquoi le Maneki Neko a-t-il la patte levée, Didier ?
Alors, l'explication se trouve dans des récits populaires. Selon une légende, un seigneur passait près d'un temple lorsqu'un chat lui fit signe de la patte. Cela l'a intrigué, hein. Il s'est approché du chat et à l'instant où il quittait l'endroit où il se trouvait, la foudre a frappé l'arbre sur lequel il s'abritait. Alors, reconnaissant envers ce chat qui lui avait sauvé la vie, hein, il l'a fait prospérer le temple et le chat est aussi devenu un symbole de chance et de protection.
D'accord.
Voilà. C'est tout simple. Hein. Au Japon, l'île aux chats aussi, d'Aoshima, attire aujourd'hui des visiteurs du monde entier. Hein.
Oui, il y a plein de photos. Hein.
C'est ça. Mmh. Dans de nombreuses villes asiatiques, les cafés à chats sont devenus populaires, car il est difficile au Japon d'avoir des animaux de compagnie dans les appartements. Les chats sont également devenus aujourd'hui des icônes culturelles, des personnages de littérature et apparaissent aussi dans les mangas, les films d'animation, puis leurs produits dérivés. Hello Kitty est l'un des chats les plus célèbres.
Hein, oui, donc... je crois qu'elle a 50 ans, Hello Kitty.
Eh ben, elle a même un Shinkansen à son image qui va s'arrêter au printemps. Là. Ça fait 8 ans qu'on peut aller dans un TGV japonais qui est totalement à l'image d'Hello Kitty.
Customisé, Hello Kitty.
Baigné totalement.
Mais oui,
dedans.
Mais elle a fêté ses 50 ans, voilà. Je crois, en 2025.
Bah, c'est peut-être pour ça, mais j'ai vu ça, c'est assez étonnant.
Alors, est-ce qu'ils sont vénérés dans d'autres pays d'Asie, les chats, Didier ?
Alors, les chats ont également acquis un statut sacré dans d'autres pays. En Thaïlande, par exemple, les chats étaient associés à la royauté et au temple bouddhiste. La race la plus célèbre, c'est le chat siamois, originaire de l'ancien royaume de Siam. Ces chats étaient vus comme des animaux nobles. Ils étaient gardés dans les palais ou les temples. En Birmanie, là, il y a aussi la légende de la création de race du chat sacré de Birmanie. Alors, qui raconte l'histoire d'un temple où des moines vénéraient une déesse aux yeux saphirs. Alors, lorsque le grand prêtre a été tué lors d'une attaque, son chat a sauté sur son corps, a fixé la statue de la déesse et son pelage est alors devenu doré et les yeux bleus comme ceux de la divinité.
C'est une belle histoire.
C'est ça.
Puis on imagine les yeux magnifiques des sacrés de Birmanie.
C'est
et
ça.
Des siamois d'ailleurs.
Alors, les autres chats du temple ont eu la même transformation, devenant les gardiens sacrés du lieu. Autre chose, au Vietnam, le chat remplace le lapin dans le zodiaque. Le chat, il symbolise la douceur, l'intelligence et la prudence.
Oui, c'est toute une autre image. Hein.
C'est ça. Ah oui, là, oui. Total.
Alors, il y a un bar à chat au
Mais
moment,
oui,
Didier.
Voilà, si vous avez envie de profiter de tout ça et d'être dans cette ambiance un peu, comme on vient de l'évoquer, oui, c'est le Mia House, ça doit parler. Un salon de thé insolite où on consomme en compagnie de chats adoptés qui ont été confiés par des associations de protection animale. C'est un lieu convivial et très sympa pour une petite pause. Alors, il est ouvert de 11h à 18h, c'est fermé le lundi et le dimanche, 6 rue Victor Bonhomé. Maintenant, il n'y a plus qu'à y aller profiter et aller ronronner là-bas ensemble.
Oui,
et
puis on fait une bonne action, on soutient.
En plus, c'est sympathique.
Voilà, on peut adopter un. En plus, on peut aller adopter un chat.
C'est ça. Si vraiment il vous plaît, vous pouvez l'emmener bon, avec une petite méthode. Puis on ne prend pas un chat à la maison n'importe comment, on choisit
ça, c'est
vraiment
vrai.
De le faire.
Bon, Asialogie, c'est fini les amis. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, nous réécouter le samedi matin à 9h30, le mercredi à 13h et bien sûr en podcast sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes et sur Radio Player aussi.
Et c'est fait la centième
voilà.
fois, je le rappelle,
et c'est
que
notre
vous pouvez
centième
le faire.
Émission.
Voilà. Ben,
rendez-vous jeudi prochain pour la 101e.
Et on sera
toujours
tout
sur Radio Alpa.
Heureux de le faire.
Ah oui,
un grand
encore
plaisir
plus,
de vous retrouver.
Qui sait.
Ouais, qui sait. Voilà.
Oui, sûrement.
Allez, à bientôt.